Alors, j'adresse un grand bonjour en liaison téléphonique avec le lieu d'art La Halle, mais également aussi avec les artistes. Alors là, c'est un temps un peu en dehors de ce que l'on a l'habitude de pratiquer en présentiel, un moment par téléphone, mais pour quand même souligner une belle résidence qui, souhaitons-le, sera effective et surtout bien visible pour l'année 2021. Avec moins de contraintes. Alors j'adresse donc un grand bonjour aux personnes qui sont en présence, Giulia Turati, commissaire d'exposition, ainsi que Camille Bondan et Adriana Wallis. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour.
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 Alors une rencontre impromptue entre Camille Bondan et Adriana Wallis il y a quelque temps que vous nous relaterez et qui a donné naissance à une résidence dite de transmission pour 2020-2021 à l'invitation du Centre d'art contemporain La Halle. Comment on pourrait préciser cette résidence de transmission? Comment celle-ci est née, Giulia?
Oui, la résidence de transmission, c'est un format qui est relativement récent. C'est-à-dire qu'on a eu une première édition l'année dernière avec Rémi Decara. Et cette année, Camille Bondan et Adriana Wallis ont été choisis, ont été invités pour participer à ce format de travail tout au long d'une année. Donc, c'est une temporalité qui est plutôt longue, hein, qui s'étale sur, on va dire, entre septembre de l'année 2020 et puis l'été 2021. C'est une résidence qui met au cœur la transmission, c'est-à-dire le fait de travailler avec les habitants, avec les différents groupes du territoire et avec eux co-construire, co-créer une œuvre. Donc, vraiment, les recherches et les travaux des artistes que les artistes proposent a vraiment cette visée première. Et c'est quelque chose qui réunit aussi plusieurs partenaires. Donc, c'est vrai que La Halle a plus un rôle de suivi artistique du projet, mais il y a à la fois la communauté de communes Saint-Marcellin-Vercors-Isère, il y a l'État avec la DRAC, la région, l'éducation nationale, le département de l'Isère, voilà, beaucoup de partenaires qui suivent et qui surtout rendent possible ces travaux sur une très longue période, voilà. Donc quand nous on invite les artistes, c'est plutôt par rapport à leur démarche, à un travail qui peut effectivement être enrichi à contact avec les habitants et les territoires, mais on va dire c'est un peu une carte blanche, c'est-à-dire que tout ce qui est proposé, tout ce qui se met en place, c'est effectivement c'est pas une commande, voilà, c'est vraiment les désirs et les envies des artistes qui nous on permet on fait en sorte de mettre en œuvre et de réaliser dans les meilleures conditions. Voilà, malgré conditions qui effectivement sont un peu perturbées par la période qu'on traverse, mais malgré ça, voilà, malgré ces cadres, des petites choses ont démarré, il y a des petits échanges qui se sont mis en place malgré tout. Donc on est assez content de pouvoir d'avoir pu démarrer ce projet malgré tout.
Alors, nous allons découvrir dans quelques instants de quel projet artistique il s'agit, hein, pour cette résidence de transmission. Mais préciser aussi que, effectivement, quand on évoque le terme transmission, ça peut s'adresser à tout type de public, hein, bien sûr. Un public peut-être spontané, celui de La Halle, mais également, avec l'entremise de l'intercommunalité, des publics pas forcément habitués aussi aux aspects artistiques, contemporains notamment.
Oui, effectivement, l'objectif, c'est l'objectif, en tout cas, l'envie, les désirs, c'est de décloisonner un peu la relation avec l'art, et ça passe par la relation, c'est particulièrement vrai pour le projet d'Adriana et Camille, ça passe vraiment dans notre cas, une vraie relation qui s'instaure aussi avec les artistes. Parce que il s'agira pas de visiter une exposition, mais de travailler ensemble. Et effectivement, on aussi choisi d'aller plutôt dans des publics, tu as dit, qui n'ont pas trop l'habitude, mais surtout parce que c'est des gens qui peuvent enrichir de manière un peu moins évidente, peut-être, plus surprenante, justement parce qu'ils ne sont pas dans des habitudes ou un peu des stéréotypes de faire et de voir comme ça peut être nos publics habituels. Donc effectivement, c'est aller là où on l'entend pas.
Alors, il y a une question pour Camille Bondon et Adriana Wallis. Peut-être je m'adresse à Camille dans un premier temps pour nous faire part de cette rencontre impromptue qui vous a lié avec Adriana Wallis pour ce projet. Ça a été aussi une rencontre un peu spontanée, on pourrait dire, quelque chose qui tout doucement s'est structuré de manière naturelle.
Eh bien oui, en fait, on s'est rencontrés par les œuvres qu'on a créées avec Adriana. Julia nous avait invitées toutes les deux à participer à une exposition qui travaillait des faits de langage. Et effectivement, la langue, c'est quelque chose qui traverse pour l'une et pour l'autre beaucoup les œuvres que l'on peut créer. Pour Adriana, c'était un ensemble de soliloques, c'est-à-dire ces petites voix, comment on se parle dans nos têtes. Et Adriana a cherché à capturer ces petites conversations qu'on a avec nous-mêmes où on se dit « Ah oui, il faut que je pense à aller prendre du pain à ceci, etc. » Et elle a comme ça recueilli, collecté des soliloques de différentes femmes qui marchaient, qu'elle a croisées dans la rue. Et moi, je venais présenter un travail où je donne à voir comment, quand on se raconte une histoire, finalement, et qu'on doit la raconter à quelqu'un d'autre à notre tour, on vient déformer cette première version de l'histoire. Comment chacun, on devient des traducteurs déformants de l'histoire dont on est le dépositaire. Et finalement, en se rencontrant aussi physiquement pour cet événement, avec Adriana, il y a une amitié qui a commencé à naître. Et quand on a vu l'appel pour la résidence, l'appel à candidature pour la résidence de transmission, on a eu envie de travailler ensemble, de mêler notre goût pour le langage et pour les autres, pour ces choses-là aussi qui sont de l'ordre du commun, et d'essayer de créer un projet spécifique pour ce contexte.
On peut toucher un mot de ce qui concerne votre média, Camille Bondon, ce que vous êtes avec les matériaux, enfin, ce que vous êtes habitué à travailler.
Eh bien, moi, je travaille le vivant, c'est-à-dire que je fabrique plutôt des événements publics, où j'essaye de mettre en avant ou en tout cas d'ouvrir des espaces pour avoir accès à la pensée des autres. Comment finalement on peut savoir ce qui se passe dans la tête de notre voisin, de notre ami. Et du coup j'essaye de comme ça poser des questions à des gens. Par exemple, je me suis intéressée au temps, comment les gens mesurent le temps, quelles sont les formes physiques ou numériques ou mentales que prennent la représentation temporelle. Du coup, je passe beaucoup de temps à rencontrer des gens, à collecter des histoires, à comprendre comment ça fonctionne, à collecter aussi physiquement, par exemple, pour ce projet-là, des agendas papier, et pour ensuite les retransmettre. Donc, il y a ce travail-là souvent de collecte auprès d'individus très différents, et plus c'est différent, mieux c'est généralement. Mmh. Et moi, je viens remettre en forme tout ce contenu-là pour le repartager, pour le remettre en circulation.
Et ça donne un sens assez bien, effectivement, bien cerné pour cette proposition de napper aux côtés d'Adriana Wallis. Alors, Adriana, vous, vous donnez une certaine harmonie aussi au travail de Camille. Comment peut-on le qualifier, votre travail, par rapport notamment à ce thème?
Ben, c'est vrai que Camille vient de raconter son travail. Il y a beaucoup d'éléments que je partage avec elle dans cette idée de collecter des histoires dans un premier temps pour après mieux les transformer et les partager avec d'autres, les faire résonner avec les histoires des spectateurs qui seront confrontés à ses œuvres. Je m'intéresse aussi beaucoup aux petites choses du quotidien, de l'ordinaire, qui à première vue sont un peu on pourrait y être indifférent, et en fait je montre à quel point ils peuvent être avoir beaucoup d'intensité, beaucoup de puissance, à quel point en fait finalement on est tous traversés par des choses assez fortes, Et ça, je, notamment dans le dernier travail que je fais depuis plusieurs années, à partir de toutes les lettres perdues, toutes les lettres impossibles à acheminer par la poste, je suis devenue depuis 2017 dépositaire de tous ces mots. Dans ce travail qui s'appelle les lettres ordinaires, finalement, je montre, je dévoile en partie ces contenus, ces mots, en les rendant anonymes pour qu'ils puissent résonner avec l'intimité d'autres spectateurs. Finalement, dans ce titre, les lettres ordinaires, qui est le titre de l'exposition qui est en ce moment à Paris, quand on visite l'exposition, on a plutôt envie de se dire, c'est dingue, toutes ces lettres, elles sont toutes extraordinaires. Et il y a quelque chose qui m'intéresse là-dedans, en fait, de montrer à quel point l'ordinaire peut avoir une allure d'extraordinaire.
Alors dans ce cas-là, la destinataire, c'est vous, finalement, puisqu'elles n'ont jamais abouti, ces lettres, c'est ce qui compose une certaine part de la poste restante, comme on dit.
Oui. Alors en fait, en effet, légalement, je suis devenue la dépositaire de ces lettres, mais dans mon travail, tout comme Camille, j'implique beaucoup les autres, d'autres participants. Et là, en l'occurrence, pour ce travail-là, ça m'a semblé évident de faire lire ces lettres par des volontaires, en fait, puisque j'en ai trop des lettres, tellement que ce serait presque infaisable de toutes les lire. J'en ai des dizaines de milliers. C'est des lettres datées de 2016 à 2020. Et là, j'ai mis en place un relais de 200 volontaires à Paris qui viennent s'installer pour l'après-midi dans le lieu d'exposition et qui donnent voix à ces mots perdus. Même si moi, je suis la dépositaire, finalement, je les partage avec d'autres personnes. Et...
Donc, vous avez été en lien.
Excusez-moi, il y a le facteur qui arrive.
Ah oui, mais justement, j'allais vous parler de la poste. Justement, c'est un peu avec la poste que ça s'est combiné, puisque les lettres, c'est la poste qui les avait à Libourne. Non, je ne sais plus dans quel secteur où s'acheminent les lettres.
Oui, alors, c'est vrai que je n'ai pas précisé, en fait, cette matière première que est constituée de toutes ces lettres égarées, en fait... À la base, c'était des mots qui devaient finir dans une benne de recyclage, être détruits et recyclés. En effet, tous les plis impossibles à acheminer arrivent dans un centre de recherche qui est à Libourne, qui s'appelle le service client courrier de Libourne, mais donc qui récupère toutes les lettres de France. Et là, ils cherchent les employés qui travaillent là doivent chercher à l'intérieur des courriers des indices pour pouvoir réacheminer les lettres. Parfois, il n'y a pas d'adresse d'expéditeur au dos de l'enveloppe, mais si on regarde dans le courrier, il y a bien les indications et on peut renvoyer la lettre à l'expéditeur. Donc, moi, je récupère en fait les poubelles de ce centre, toutes les lettres vraiment d'auteurs inconnus et anonymes, les lettres dont on n'a plus qu'un loulou, maman, tata ou Cathy pour imaginer de qui il s'agit. Et donc, la recherche serait vaine et ces lettres partent au recyclage. C'est donc depuis 2017 qu'il y a eu un changement. Au lieu de partir au recyclage et d'être détruite, les lettres sont expédiées à mon atelier. Et donc, c'est le facteur qui vient vers 10h20 chez moi et qui arrive avec un carton rempli de billets d'être perdu.
Ah oui. Ça fait quand même quelque chose d'émotionnel de lire des courriers qui ne sont jamais arrivés à bon port, en fait. Non, il y a quelque chose de mystérieux derrière tout cela, non?
C'est vrai que, ouais, je pense... Vraiment, la particularité de ces courriers et le fait que ce soit aussi bouleversant de les lire, je pense que ça réside là-dedans, dans le fait que ces courriers, ils soient encore dans un entre-deux. Ils n'ont pas encore atteint leur destinataire. Ils sont encore à la recherche d'une oreille, d'une bouche, d'une main qui va les tenir et les lire. Et du coup, le fait d'être dans ce parcours-là, enfin, de récupérer ces lettres à ce moment-là, finalement, ça me vous disiez tout à l'heure, c'est un peu comme si je devenais la destinataire de ces mots. Il y a presque un transfert qui s'opère, et même si l'histoire semble très éloignée de ce que je vis en ce moment, tout d'un coup, j'ai l'impression que ces mots, ils étaient pour moi, et après ça, dur de passer à autre chose, ils s'effacent pas, je les porte en moi maintenant, ces mots. Même si, à la base, ils ne m'étaient pas destinés.
Alors, pour... croiser un peu ce que vous proposez, Adriana Wallis. Donc, dans ce projet, il y a aussi donc le projet que vous menez avec Camille Bondon. Il y a une interaction par rapport à ce phénomène de mots, de lettres, de souvenirs. dans ce projet avec lequel vous œuvrez ensemble ?
Moi, juste pour faire une transition, en fait, c'est vrai qu'avec Camille, quand on s'est assise en juillet 2020 pour réfléchir à un projet de résidence, on a assez rapidement imaginé partir de l'objet de la nappe, une nappe qu'on met sur une table, la table de la cuisine, de la salle à manger. Et pour moi, c'était une autre grande feuille blanche, une autre grande page sur laquelle on peut écrire, métaphoriquement, mais écrire des histoires. Les repas, ce lieu qui est la cuisine ou la salle à manger, c'est là qu'il se passe quand même beaucoup d'histoires de famille, de moments intenses, gais, tristes et autres. Et du coup, je trouvais que c'était... Il y avait une forme de prolongement aussi dans le choix de cette matière par rapport à ce projet des lettres.
Avec aussi la nappe qui va sans doute parler à bon nombre de publics. Hein, c'est quelque chose d'emblématique qui nous concerne toutes et tous. Déjà, cette implication aussi entre vous deux pour bien une certaine phase peut-être aussi déjà de recherche, de collecte. Comment alors va s'organiser cette collaboration artistique entre vous deux ?
Eh bien, en fait, ce qui est assez étonnant avec Adriana, c'est que les choses se prolongent entre l'une et l'autre de manière assez naturelle et on discute ensemble. L'une lance une idée que l'autre reprend et poursuit. L'autre va ajuster, porter des rectificatifs. Et en fait, c'est assez fluide la manière dont les échanges se passent entre nous. On discute comme on discute autour d'une table pour écrire un projet. Et dans ce projet-là, en fait, ce qu'on souhaite faire avec Adriana, c'est de créer une collection de nappes publiques. Et cette collection de nappes publiques, c'est finalement la créer avec les habitants et des habitantes qui vivent autour de Saint-Marcellin. Du coup, c'est impliquer les autres à imaginer, développer des motifs, des manières d'ornementer et d'habiter, d'occuper cette page blanche qui est une nappe vierge. Et ces nappes-là, on aimerait qu'à leur tour, elles puissent peut-être en partie revenir aux habitants, c'est-à-dire que les habitants puissent les emprunter, qu'on puisse continuer de manger dessus ou commencer à manger dessus. Que ce symbole-là de convivialité, de commun, de partage, ça devient un prétexte pour de la création, mais aussi pour créer des nouveaux repas quand les nappes auront été réalisées.
Alors, réalisation de nappes, alors il y a une manière de s'y prendre pour justement tout ce qui concerne, il y a une collecte de nappes, comment cela va se dérouler ?
Eh bien justement, Adriana, avec ce goût-là pour la correspondance qu'elle a développée depuis quelques années, on s'est dit qu'effectivement, là, on devait commencer la résidence début novembre. On s'est dit qu'on pourrait peut-être commencer à distance par correspondance. Que ce goût-là de la correspondance papier, d'écrire une lettre, de l'adresser à quelqu'un, de recevoir un pli et cette joie de recevoir un pli dans une boîte aux lettres, ça pouvait être un outil pour commencer à impliquer des classes, un foyer de personnes âgées, différents publics comme ça, partenaires du projet, pour leur demander de nous raconter, de nous décrire, d'être finalement nos yeux. Pour voir des nappes et nous les décrire, de nous raconter des histoires de menus qu'ils aiment manger ou des souvenirs qui seraient attachés à certaines nappes qu'ils ont dans leur placard. Et cette matière-là, nous, va nous servir à imaginer des scénarios de décoration, d'ornementation de nappes.
Pour compléter ce que dit Camille, c'est vrai que c'est étonnant parce que l'objet qu'on a choisi, qui est symbole de convivialité, qui est simplement une nappe, en fait, il se trouve que là, au mois de novembre, on était censé commencer en présentiel notre projet. On s'était dit qu'on aurait un stand sur le marché et qu'on commencerait à broder des nappes, à récolter des histoires, à échanger autour d'un stand de marché. Tout ça est impossible. Et on arrive à un moment où finalement, dans les collectivités avec lesquelles on travaille, les nappes sont interdites. Donc, je trouve qu'il y avait une sorte de tension aussi intéressante par rapport à cet objet qui a l'air très simple et qui tout d'un coup devient un interdit. Parce qu'en fait, il est symbole de réunion familiale, de réunion entre amis, de convivialité, et c'est tout ce qui nous est interdit en ce moment. Et du coup, finalement, on s'est dit que plutôt que de tout reporter au printemps, il y avait peut-être quelque chose à faire en ce moment, dans ce temps où les réunions de famille et les repas à plusieurs sont interdits. Et donc à la fois, on collecte des souvenirs de Naples, des histoires, des anecdotes que des gens ont pu avoir autour de Naples, de repas, de grandes tables. Donc c'est pas que la nappe, ça déborde un petit peu. Et aussi, donc ça c'est la partie souvenir, mais il y a aussi la partie future, dans le sens où on est intéressé de récolter les désirs des uns et des autres. Si quelqu'un rêve d'organiser un grand banquet à la fin du confinement, il y aurait qui, sur quelle nappe, quel repas serait partagé, et voilà.
Alors justement, c'est quelque chose d'assez emblématique, la nappe. Il y a aussi une manière assez intergénérationnelle d'aborder peut-être cet élément qui va parler à toutes et tous, peut-être.
Justement, on s'est posé des questions. Par exemple, là, on travaille avec des classes d'école maternelle et on discutait avec les institutrices pour savoir si elles pensaient que dans toutes les familles, il y avait des nappes. Et c'était pas évident de savoir si toutes les familles étaient équipées, entre guillemets, de nappes, si peut-être la nappe, les enfants les dissociaient, par exemple, des toiles cirées. Du coup, pour nous, évidemment, les toiles cirées font partie des nappes, de ce qu'on pose autour d'une nappe. Et cet objet-là, c'est vrai qu'il est investi de différentes manières par rapport, par exemple, au trousseau, aux nappes brodées des initiales de nos grands-parents, que certains peuvent conserver encore à la maison, des nappes un peu plus communes, des nappes, justement, ordinaires, pour la vie de tous les jours. Et je crois que c'est aussi un endroit qui nous intéresse, parce que là, on échangeait avec des enseignantes en lycée, et d'un seul coup, on se demandait finalement à quoi ressemblait, quelle était la réalité des repas des lycéens. Qu'est-ce que ça pourrait évoquer pour eux ou pas, une nappe? Quelle était leur réalité de repas? Est-ce que finalement, nous, on imaginait quels étaient les objets qui pourraient être posés sur une table? En fait, moi, je pensais pas, par exemple, au téléphone portable. Et manger avec son téléphone portable, c'est peut-être une réalité pour certains. Et du coup, cette diversité-là de réalité, c'est quelque chose dont on est curieux et qu'on cherche finalement à accumuler pour pouvoir s'en servir comme terreau pour faire pousser des idées de nappe.
En tout cas, les récits seront bien sûr les bienvenus pour agrémenter toutes ces nappes. Alors actuellement, c'est plutôt une phase de recueil dont vous êtes chargé en ce moment ?
Oui. En fait, ce qui serait chouette, c'est que là, les gens qui nous écoutent, peut-être que depuis qu'on a commencé à parler et à prononcer ce mot de nappe et l'histoire de nappe, si vous avez en tête une nappe, si ça vous fait penser à une nappe en particulier, en fait, on serait très curieuse avec Camille de savoir de quelle nappe il s'agit, pourquoi vous pensez à cette nappe, et on aimerait même, si possible, avoir une description écrite très précise de cette nappe, comme si après on pouvait, comme un peintre copiste, la reproduire selon votre description. Donc ouais, là c'est vraiment ce qu'on recherche en fait, c'est des descriptions formelles de nappes accompagnées de leur histoire.
Voilà, parce que c'est vraiment un fil d'histoire, une nappe, que l'on peut connaître quand on est petit jusqu'à l'âge adulte, et avec tous les événements qui se déroulent autour.
C'est ça. C'est vrai que ça, c'est, enfin, les nappes qui passent effectivement de génération en génération, ça c'est assez beau. Comment effectivement c'est une sorte d'objet qui s'imbibe de toutes les histoires, de toutes les strates. Et si justement vous les auditeurs qui nous écoutez converser, vous avez comme ça une idée de nappe qui vous est venue en tête, on a créé une adresse mail pour correspondre, pour rentrer en contact avec vous. Et l'adresse c'est lesnappes@gmail.com et on serait ravis de vous lire.
Éventuellement un petit numéro de téléphone aussi, pourquoi en parler oralement, c'est possible aussi.
Oui, alors moi je suis disponible au 06 47 68 98 22.
Et moi au 07 81 84 94 03.
Merci beaucoup déjà pour cette présentation. On aura naturellement l'occasion de retrouver ce projet, comme on dit, plus de manière concrète à partir de 2021. Là, c'est plus effectivement peut-être faire part de ces impressions, de ce recueil de mémoire avant d'établir un peu plus concrètement les choses, Julia?
Oui, effectivement. Là, l'année se termine d'une manière un peu étrange pour tout le monde. Donc c'était quand même malgré tout intéressant de pouvoir rebondir avec on collecte et on correspondance, voilà, commencer les projets à distance, mais avec conforme malgré tout qui puisse passer par la lettre ou quand même par l'oral avec des appels aux artistes, voilà, que ça puisse quand même démarrer malgré tout. Et ce qu'on espère vivement, c'est quand même reporter un événement, un peu de vraiment des rencontres avec les artistes en tout début 2021, en janvier. Et puis les ateliers de broderie, de tachage, de construction des nappes suite à cette première phase des collectes, se dérouleront effectivement entre notamment je pense au printemps 2021. En tout cas, sur notre site, sur les sites de la halle, on a créé une page où à fur et à mesure on mettra à jour les informations, les modalités aussi d'échange, les événements qui petit à petit vont s'organiser. Donc même si l'horizon est encore un peu dans le brouillard en termes de dates précises, on arrive quand même à avoir des périodes à pouvoir vous dire voilà, c'est périodes pour rencontrer les artistes et les voir en vrai dans les prochains mois. Donc on vous tiendra au courant après les jours et les dates les plus précises. Et en tout cas, c'est quand même assez symptomatique en fait, ces projets autour d'un objet, on l'a dit, très simple, mais qui cristallise beaucoup d'envie et des désirs et des manques en cette période. Donc c'est peut-être un projet qui tombe assez bien dans la période qu'on vit. C'est ce qu'on espère marquera encore plus les moments et la période qu'on traverse. Donc on a hâte les processus vont être super intéressants et on a hâte de les vivre ensemble, mais on a hâte aussi de pouvoir réaliser un banquet final pour avec tous les convives, tous les participants qui auront permis au nappé à ces projets de se dérouler tout au long de ces mois.
Voilà, et de disposer les nappes pour se retrouver tout autour. Ce sera effectivement quelque chose d'assez symbolique. Très prochainement, on le souhaite en tout cas.
Oui, c'est ce qu'on souhaite, tout le monde souhaite.
Et puis donc une exposition bien nappée au printemps, mais cela n'empêche pas la tenue, on le rappelle, des événements, enfin de ce qui concerne le jeune public. Ça, c'est maintenu.
Oui, avec les classes, on a déjà commencé à travailler. Ça, pour le coup, c'est à huis clos, mais avec les scolaires, les travaux est déjà en cours, on va dire.
Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Giulia Turati. Merci beaucoup aussi aux artistes Camille Bondan, Adriana Wallis, que l'on retrouvera prochainement en chair et en os, après cette conversation téléphonique, mais qui a toutefois son intérêt puisque c'est du recueil et qu'on peut parfaitement effectivement envoyer chacun ses ressources pour pouvoir alimenter la prochaine exposition. Et le site de la halle est là pour rappeler tous les aspects pratiques.
C'est donc lahalle-pontinroyant.org/les_nappé avec 2 P et 2 S. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus et de participer aussi, il y a les contacts pour participer.
Bon. Eh bien, merci Giulia, merci Camille et merci Adriana. En vous souhaitant une excellente journée, puis on le souhaite à très bientôt.
À très bientôt, merci.
Merci encore à vous. Au revoir.
Oui, au revoir.
Au revoir.